Salut Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Le soleil qui active tout le monde, la végétation, les insectes, les agriculteurs, les agricultrices, les jardiniers, les jardinières, mais aussi le promeneur qui sillonne la campagne pour faire le plein d'énergie. On en a besoin de cette vitamine D. Un point commun à tous, le sol qu'il travaille pour les uns ou qu'il piétine pour les autres.
Qu'il piétine ou qu'il foule ou qu'il arpente, de manière plus positive, je dirais, mais le sol, ce patrimoine commun à tous. Alors, on va parler du sol. Alors là, ça commence à s'exciter un peu dans les campagnes. On va faire la chronique entre deux trucs, d'ailleurs. Ça va être énergique, on va dire. Allez.
Mais ça ne l'est pas d'habitude.
Ouais, le sol, c'est comme notre patrimoine commun à tous et tout part de là, dans notre agriculture notamment.
Tu vas quand même prendre ton temps.
Oui, on va quand même parler. Allez, je parle moins vite. On va parler de notre sol, mais on va parler du coup de l'entreprise Genesis aussi, en France, qui a été créée en 2019 et qui a développé une note de santé des sols permettant d'évaluer en fait la capacité d'un sol à être résilient et en fait à assurer ses différentes fonctions comme habitat pour la biodiversité, la fourniture de nutriments, la rétention en eau, etc. Et en fait, comment est-ce qu'il est résilient suite à une perturbation? L'objectif, en fait, c'est de fournir un diagnostic normalisé permettant d'apprécier et de comparer cet état sur une échelle unique, donc commun à tous en France, quel que soit ce contexte pédoclimatique. Donc qu'on soit en bocage, dans la plaine niortaise ou dans notre Gâtine, par exemple. Et en fait, il y a même un an, il y a eu un projet de loi qui n'a pas abouti, mais visant à rendre obligatoire ce diagnostic en cas de vente de terrain. Un peu comme vous le faites pour le DPE, pour les maisons.
Quel résultat alors obtenu après cette étude?
Alors, il y a eu 5500 points de données, d'analyse de terre, très clairement. Et les résultats révèlent qu'il y a 48% des sols français analysés, donc qui sont en bonne santé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ou vers moitié plein, ou vers moitié vide, vous le voyez comme vous voulez. C'est toujours pareil. Donc ils sont en bonne santé et résilients face aux pressions du climat ou de l'homme. Et ensuite, il y a 35% qui sont en état moyen, signe d'une dégradation encore modérée. Et en fait, ça veut dire que ça nécessite des changements de pratiques et des mesures de préservation. Et enfin, il y a 15% qui présentent déjà des signes de dégradation avancée et 2% qui sont en état critique. Et en fait, tous ces chiffres-là, ils cachent des disparités. 2/3 des sols forestiers et des prairies sont diagnostiqués en bonne santé, contre seulement 27% des terres arables. Les terres arables, c'est ce que vous voyez cultiver là, par exemple, les agriculteurs qui arrivent dans les champs en ce moment. Et moins de 10% des sols viticoles diagnostiqués affichent un état sain. En Deux-Sèvres, l'élevage y est assez présent, c'est vrai, et donc les prairies, puisque ça nous permet d'avoir des résultats corrects par rapport à ce diagnostic. Le marais Poitevin s'en sort mieux, en fait, avec un effet biodiversité, mais aussi de taux de matière organique dans son sol. Et du coup, tout cela, ça permet aussi une capacité à retenir de l'eau favorable. On avait parlé carbone dans le sol, et matière organique, argile, qui permettent de retenir de l'eau. Les zones céréalières, elles, sont plus sensibles à la dégradation des sols, même si certains travaillent depuis déjà plusieurs années maintenant à ne pas dégrader leur capital. Le sol, c'est un capital, c'est un patrimoine, ce n'est pas juste un support pour faire pousser les choses, même pour vous, amis jardiniers. Pensez-y, voilà.
Et qu'est-ce qu'on fait alors pour prendre soin de notre sol tout en produisant pour se nourrir? Il y a des leviers pour ça?
Ouais, alors il y a des choses plus ou moins simples, comme l'allongement des rotations, la réduction du travail du sol. Alors, réduction du travail du sol, ça veut dire limiter le labour, par exemple. Supprimer, parfois c'est compliqué, mais au moins le limiter. La couverture végétale aussi, donc ne pas avoir un sol nu, très clairement. Et aussi, tout un travail sur la fertilisation, favoriser la fertilisation organique. Donc c'est par exemple mettre du fumier plutôt que de la fertilisation minérale, du coup les petites billes blanches que vous pouvez voir parfois. Et tout ça permettre en fait le maintien des prairies en maintenant de l'élevage. Certains céréaliers, eux, introduisent des ateliers de volaille de chair ou poule pondeuse même, où ils introduisent aussi des moutons par exemple pour retrouver de la cohérence en fait dans leur système et prendre soin de leur sol à côté. Et vous qui aimez jardiner chez vous et vous êtes sûrement dans votre jardin, c'est le même principe. Il faut des rotations, il faut du fumier, du compost, limiter les pesticides, ne pas tasser votre sol bien sûr et favoriser la biodiversité. Ce sont les mêmes éléments pour un jardin en forme. Et pour faire le lien avec cette santé du sol, nous pouvons parler d'une plante que vous voyez en fleur en ce moment et qui égaye souvent les promeneurs et les passants en voiture, tout ce que vous voulez, c'est bien sûr, Jacqueline,
le colza.
Et le colza, exactement. Alors le colza, c'est un bon exercice du coup pour parler de la santé du sol. Pourquoi? Parce que pour commencer, le colza, on le sème en général vers la mi-août ou dernière quinzaine d'août. Et ensuite, on le récolte qu'en juin. Donc en fait, il est 10 mois en terre. Cela permet de couvrir le sol pendant 10 mois. Cette fameuse couverture du sol, éviter le sol nu. Et ça, c'est un plus parce qu'un sol ne doit jamais brûler au soleil. Le colza, lui, il a des racines pivots qui vont structurer la terre. Et si celle-ci, cette structure de la terre n'est pas trop martyrisée d'avance, il laisse le colza se développer. Structurer la terre veut dire en fait avoir un effet positif sur la circulation de l'eau et sa retenue en eau aussi, mais aussi sur les micro-organismes. Ensuite, le colza a besoin de beaucoup d'azote. Il va pomper cet azote, même en hiver, en évitant qu'elle parte dans l'eau du sous-sol. Et en grandissant, le colza va développer son squelette jusqu'à la floraison, avec au final un rapport, ce qu'on appelle le carbone sur azote, le C sur N, intéressant pour nourrir le sol, ensuite créer de la matière organique en fait par les micro-organismes, et ensuite restituer ces éléments fertilisants pour la culture suivante. C'est pour ça que c'est une tête de rotation intéressante pour le sol, comme la luzerne si vous voulez, ou même une prairie dans certains cas. Et ensuite, les points les plus compliqués vis-à-vis du sol, ce sont bien sûr les passages de traitement et de fertilisation. Il peut y avoir 5 ou 6 passages par exemple, et les pesticides ou la fertilisation minérale ne favorisent pas réellement sur le long terme une santé du sol optimale. Autre bénéfique pour le colza, c'est bien sûr, c'est une plante mellifère qui favorise la biodiversité et les abeilles si les traitements sont respectés.
Et c'est tellement joli, cette couleur jaune dans
c'est
nos campagnes.
C'est joli en ce moment, ça fait un joli maillage, c'est vrai.
Voilà, c'est
entre
vrai.
Le vert des prairies, le jaune du colza, et puis à côté, tous les arbres qui arrivent à travers les haies de nos bocages.
Ah là, t'en es fan de ta campagne. Et puis en ce moment, sous le soleil printanier,
là, c'est
blousy, c'est beau.
On est bien dehors.
Merci, Ludo.
Bonne journée, ciao.